sommes le lundi 6 novembre 2023 et nous sommes heureux d'être en vie, de nous retrouver dans ce studio pour animer le Club La Presse. Nous avons foi qu'il en est de même pour vous. Rendons grâce au Souverain Suprême qui nous maintient en vie et prions-le qu'il nous inspire à nous donner des pensées positives pour nous-mêmes et pour toute la communauté. Vous qui nous écoutez sur Canal FM, la nouvelle génération émettant ici à Lomé et ses environs, mais également sur les antennes des radios partenaires, j'ai cité Radio Lumière depuis Anéha, Radio L'Appel, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baganiamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapon, mais également les internautes qui sont en communion avec vous, avec nous, par Radio Le Bénin et Bénin Radio, ou encore les applications Canal FM même, qui, vous qui nous regardez sur la chaîne YouTube, nous vous saluons. Et nous, c'est l'équipe au studio naturellement, mais également les techniciens qui réalisent l'émission, Victor Gbe Koku Michel Tominga et Gérard Kodjo Akucha. Au studio ici, trois confrères, ceux qui écoutent les lundis devinent déjà qui sont à mes côtés. Harry Miaou Tchanyaou de La Nouvelle Opinion, bonjour.
Ça, je te salue. Je salue les Togolaises et les Togolais qui nous écoutent en ce moment.
Pas seulement les Togolaises, puis on nous écoute un peu partout dans le monde. Pas seulement les Togolaises et Togolais. Ceux qui nous écoutent un peu partout dans le monde.
Et tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde.
Voilà, notamment ceux qui nous écoutent dans la Bina. La Bina qui nous a produit Uriel Kakpala et Niang, directeur du journal Mega Info, bonjour.
Quand on a affaire à un enseignant comme ça, c'est compliqué de prononcer ses phrases. Vous voyez, pour un petit truc comme ça, il a creusé et corrigé. Bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent de par le monde.
Et le troisième confrère nous vient de la terre mythique de Couvé, Didier Kwamiasogba, du journal en ligne Togo Breaking News. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM, j'espère avoir bien fait. Et bonjour à mes aînés en studio et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et notamment, je précise, de Kouvé Boli, qui vient d'avoir nouvellement pour la première fois de l'histoire un chef de village. Et donc, salut au chef Avossé 4, qui a été intronisé donc le samedi dernier dans le village. Donc, pour la première fois, oui, le village de Kouvé vient d'avoir un chef. Pendant longtemps, ce n'était pas reconnu comme un village dans le canton, mais maintenant, c'est chose faite donc, avec un chef. Donc, Kouvé village, canton, Kouvé Boli, le village de Boli, dans le canton de Kouvé, donc vient d'avoir son chef traditionnel.
Nous qui sommes a été heureux pour cela, mais Didier, donc, nous trois ici, nous sommes fâchés contre toi, parce que tu ne peux pas aller introniser ton nouveau chef, le tout premier village de... le tout nouveau chef de ton village sans nous y associer.
Ben, ça a été pour moi-même une surprise. Donc, de loin, j'ai suivi, je n'ai pas été associé, mais j'ai suivi.
Mais tu as été quand même au village.
Non, donc, je pense que c'est pour nous éviter la poussière de AHP en allant vers.
Non, nous aurions dû prendre la voiture du président Tchanyao et nous aurions cotisé de l'argent pour mettre de l'essence et mettre la climatisation.
Après, en tout cas, faire le
heureux
tour,
pour mais... vous à Kouvé Boli. C'est ce que j'ai dit là, c'est pour dire que quand on est ami, c'est aussi bien dans les moments de bonheur que de peine. Nous n'allons pas attendre seulement que tu aies un deuil avant de nous inviter, mais également nous aurions aimé à tes côtés pour des moments de bonheur, de plaisir. Merci. Quelle est la pensée que nous prenons ce jour pour nous inspirer? C'est une phrase de Albert Einstein qui a écrit que, citation, « Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui. » Donc, l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. Encore une fois, tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui. Donc, l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. Pour dire en français facile que le monde est autrement plus vaste et plus grand que ce que nous voyons au bout de notre nez. Cela nous appelle encore à la modération, à la relativité. Si nous ne savons pas quelque chose, ce n'est pas que ça n'existe pas, n'est-ce pas?
Exactement.
Aujourd'hui, de quoi débattons-nous? Hier a pris fin le 50e pèlerinage au sanctuaire marial de Togoville dans le diocèse d'Anéroy. Il y avait des milliers, voire même des dizaines de milliers hein, de croyants, de pèlerins. Mais l'attention est portée spécialement sur un pèlerin particulier. Nous allons en parler. Et ce lundi 6 novembre, c'est le retour des salles de classe après le congé de détente hein, qui a été octroyé au monde scolaire. Qu'est-ce qu'il en est? Nous allons partager deux ou trois réalités de l'école togolaise. Comme également, c'est ce lundi 6 novembre que le tribunal militaire devra reprendre ses travaux, pendant que en France, la Cour de justice de la République va auditionner également un ministre en fonction. C'est une grande première que la justice française écoute un ministre français en fonction. Ça nous intéresse pour nous. Et il y a quelques jours, le poste de pesage de Thévier a été inauguré. Qu'est-ce que les journaux en disent? Qu'est-ce que vous en pensez dans vos commentaires? Nous allons recueillir vos questions, vos commentaires sur le coup de 12 heures après la pause. Les deux numéros n'ont pas changé. C'est le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Premier chapitre, religion, avec ce que nous avons vu hier, ceux qui sont allés à Togoville ont vécu ça de l'intérieur. Nous autres, nous avons appris sur les réseaux et par le témoignage. Et nous allons continuer à nous informer ce matin par les journaux. Journaux dont Nouvelle Opinion qui écrit « Fort Nyasingbé au pèlerinage marial à Togoville », pendant que Togo Matin lui écrit « Pèlerinage marial ». Fort Nyasingbé avec les fidèles catholiques à Togoville, pendant que le correcteur parle lui aussi de la messe de clôture du 50e pèlerinage au pied de Notre-Dame du lac Togoville. Fort Nyasingbé, ce fidèle qui chamboule tout. Arim Yaou, voilà, comme je le disais, il y avait des dizaines de milliers de pèlerins à Togoville depuis vendredi jusqu'à hier, mais c'est une évidence de dire que le pèlerin qui retient le plus l'attention, c'est Fort Nyasingbé.
Oui, il faut dire que Fort Nyasingbé, c'est quelqu'un qui a la foi et qui met au-devant de tout Dieu. Et Fort Nyasingbé prouve à tous les Togolais et à tout le monde que avant tout, il faut Dieu, et c'est grâce à tout ce que et les Togolais et lui-même s'impliquent à faire dans le domaine religieux, comme ce fut le cas hier à Togoville. C'est tout cela qui protège le Togo, c'est tout cela qui fait que le Togo, Dieu évite beaucoup de choses au Togo. Et il faut absolument que cette communion y ait. Et le président de la République l'a fait. Vous avez dû voir sur les réseaux et sur les chaînes de télé tout ce que cela donnait comme engouement quand le chef de l'État, le premier de tous les Togolais, avec une bonne partie du gouvernement, et même, vous savez, des officiers et tout le monde qui était, ça veut dire que c'est tout le Togo qui communie pour apporter la paix, la stabilité et tout ce qu'il faut pour que notre pays décolle et qu'il puisse avancer. Et surtout, si le premier est devant, ça veut dire que l'ensemble des Togolais sont en train de comprendre que malgré tout ce que nous faisons, malgré les positions dans lesquelles nous sommes, tout le monde doit pouvoir s'incliner devant Dieu qui est l'alpha et l'oméga et qui contrôle le monde et en tout sens.
Merci Uriel Kakpala. Ce n'est pas la première en fait. Fort Nyasingbé qui a demandé une fois des messes aussi bien pour la République togolaise que pour lui-même et sa famille. Ce n'est pas un secret de dire que sa famille, sa maman était une grande dévote. Voilà, et il s'est transporté donc à la messe de clôture à Togoville hier. Et naturellement, dans sa stature de chef d'État, il avait à ses côtés Madame la Première Ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale et bien d'autres hauts dignitaires de la République. C'est sûrement ce qui amène le correcteur à écrire que Fort Nyasingbé est ce fidèle qui a chamboulé une bonne partie du programme. Mais je pense que l'action qu'il faut retenir, c'est l'humilité, hein, un peu la façon dont le chef de l'État a pratiqué d'exprimer sa foi en s'associant à ses compatriotes croyants catholiques.
Moi-même, je suis un fidèle catholique de naissance. Je sais que le sanctuaire marial de Togoville, c'est un sanctuaire de guérison intérieure, de fortification spirituelle. Et Fort Niasingbé ne pouvait pas opter pour une journée extraordinaire au niveau de ce sanctuaire-là. C'est un fait, c'est le président de la République, c'est pourquoi cela attire plus l'attention de tout le monde. Mais tous les jours que Dieu fait, il faut savoir que toutes les autorités que vous connaissez, chacun a son lieu de retraite. Au foyer de charité d'Alédio, si vous avez l'habitude d'y aller, vous n'imaginez pas ceux-là que vous allez croiser là-bas. Tout le monde a besoin de la protection divine. Chacun de nous, surtout les responsables, ils ont besoin de cette protection, ils ont besoin de se purifier, de se sanctifier avant de voir clair dans leurs responsabilités. Surtout quand on est responsable, on est à la tête d'un pays, on se doit de se nourrir de la grande humilité, on doit de se nourrir de la prière, on doit demander la protection de Dieu, la clairvoyance de Dieu. Et moi, ça ne m'a pas étonné parce que je sais que beaucoup de personnes vont aller Dieu, beaucoup de personnes vont partout où vous connaissez que c'est le lieu de prière. Nous avons tous fait des récollections lorsqu'on était à l'université et vous savez les conséquences positives de cela. Aujourd'hui, Fort Niasingbé, publiquement, il était là. C'est une très bonne chose. À sa suite aussi, on a beaucoup de membres du gouvernement. Nous avons tous besoin de la protection divine et ne pensez pas que ceux qui nous dirigent n'en ont pas besoin. Ils en ont plus besoin d'ailleurs parce que chaque jour, ce que nous jetons sur eux, s'ils ne demandent pas cette protection, je pense même que depuis ce plateau même, nos propos même vont blesser des gens, nos propos même vont déloger des gens de leur bureau. Donc, que cela soit ainsi, que tout le monde aille, et il en sera de même au niveau des musulmans. Vous avez vu, quand Tchanyawa a pris la parole, il a circonscrit son raisonnement sur la personne de Fort Niasingbé. C'est clair, lui, les musulmans, il ne maîtrise pas ce qui se passe là-bas. Là, c'est la guérison intérieure, c'est la protection divine. Tout le monde peut y aller. Chrétiens, musulmans, ce qui est fait comme travail par les catholiques là-bas, c'est un travail énorme. Et si vous n'y êtes pas encore allé, il faut aller pour voir.
Merci. Toujours pour la religion, rappelons que si Fort Niasingbé était hier à Togoville pour le 50e, le jubilé d'or de ce sanctuaire marial, pour les autres religions aussi, il fut quelques temps, en fait, par moment, lors des grandes prières au Ramadan et à la Tabaski, Fort Niasingbé y est allé lui-même des fois, ou bien s'est fait représenter par les chefs de gouvernement ou autres hauts dignitaires. Mais il y a le côté religieux de Didier Assogba, il y a le côté religieux, peut-être que Fort Niasingbé a trouvé hier une guérison intérieure pour lui-même et pour tout le Togo, mais il y a également le côté populaire. Bien malgré lui, il s'est vu offrir un bain de foule. Après, lui-même, il a adressé un message pour remercier l'évêque d'Anéro et tous les chrétiens catholiques et toute la population qui l'ont si bien accueilli. Bon, c'est vrai que dans l'autre camp de l'opposition, des gens pourraient lui reprocher qu'il a transformé le pèlerinage en une action de bain de foule populaire. C'est ainsi va la politique. Mais également, des gens ne manquent pas de lui rappeler que il y a le sanctuaire de Togoville, mais il y a également d'autres sanctuaires, notamment Covier ici, qui aura également son pèlerinage à Alejo, diocèse d'Atakpamé, diocèse de Kara et diocèse de Dapan. Un bon chef d'État, bon père de famille, s'il ne voudrait pas se faire taxer d'impartialité, il devrait peut-être trouver l'occasion de se présenter ou bien de se faire représenter aux grandes manifestations de toutes les grandes religions de notre pays.
Oui, mais est-ce qu'il pourra ou est-ce qu'il fera? On va continuer à se poser des questions pareilles. Mais n'oubliez pas que un fidèle catholique qui va à un pèlerinage comme ça, ou derrière un fidèle catholique, fut-il Fort Niasingbé qui va à un pèlerinage comme ça, se cache un chef d'État qui va justement avec on va dire tout l'armada de la République, la première ministre par ici, la présidente de l'Assemblée nationale par là, la garde présidentielle, le gouvernement et tout, entre le pèlerinage du fidèle et l'action politique du chef de l'État, la frontière n'existe plus en ce moment-là. Et bon, vous avez vu de quoi on parlait, de chamboulement du programme. Ça a été vraiment le cas, d'ailleurs. Et donc, ma foi, je pense que si le chef de l'État a décidé d'y aller avec toutes ces équipes-là et qu'il y ait toute cette communication autour de ce pèlerinage, autour de sa personne, autour de sa présence là-bas, comme tu le dis, ça aurait été le bien qu'il se présente à d'autres endroits également. Mais je crois que ça va être difficile, ça va être vraiment difficile qu'il se déplace comme ça et qu'il aille à tous les pèlerinages. Ça ne va pas être possible, on ne va pas se leurrer. Un peu, on lui avait demandé dans ce pays d'être à toutes les fêtes traditionnelles dans chacune des préfectures ou dans chacune des régions. Ça n'a jamais été le cas, donc je présume que ce que tu espères là ne va pas non plus être possible, mais il faut déjà saluer le fait qu'il démontre, le président de la République est en train de démontrer qu'il est un croyant, qu'il est un fidèle chrétien, un fidèle catholique, qui reste en communion avec son Dieu et qui va à ce pèlerinage-là. Il a choisi d'être à Togoville. Espérons que... pour le bonheur peut-être des autres pèlerinages, il se fera représenter. Moi, je ne me fais pas d'illusion qu'il ira lui-même, à moins qu'il y ait un autre agenda politique derrière ses déplacements. Peut-être qu'il saisira les occasions pour se présenter. Et comme je le dis, derrière le fidèle ou avant le fidèle catholique se cache justement le statut de chef d'État, d'homme politique, Faure Gnassingbé, qui dirige, qui est le président du Togo, qui a autour de lui des responsables des institutions de la République, mais qui a également derrière lui un parti politique qui, toutes ses personnalités et toutes ses institutions qui peuvent saisir des occasions pour poser des actions politiques en vue d'auréoler l'image du chef de l'État et l'image de l'homme politique qui est Faure Gnassingbé, au-delà du fidèle qui se déplace aussi.
Merci. Comme Didier le dit, entre Faure Gnassingbé, le fidèle chrétien catholique, et Faure Gnassingbé, le chef de l'État, il est difficile de faire la différence. Mais en même temps, évitons la confusion, l'amalgame. La constitution de la quatrième République reconnaît la liberté de religion à tous ceux qui habitent au Togo, mais l'État togolais lui-même se veut laïque. L'État togolais se veut laïque, ça veut dire qu'on peut avoir un Togolais de n'importe quelle religion qui peut être élu à la tête du pays, c'est important. Mais ce qu'il faut encore rappeler, c'est que le déplacement d'un chef d'État à de telles occasions n'est jamais exempt de polémique. Vous vous rappelez, lorsque le pape s'était rendu à Marseille les 22 et 23 septembre dernier et que le président français Emmanuel Macron a choisi d'aller assister à la messe apothéose, à la messe de clôture, on avait insisté également à ce débat en France. Certains étaient pour, certains étaient contre, mais c'est ainsi que va la République. On saurait avoir une République démocratique sans polémique, Ari Miaou.
Absolument. Et c'est justement cela qui explique qu'on est en démocratie. Chacun est libre de ses opinions et chacun est libre de faire le commentaire qui lui plaît, mais avec raison gardée. Effectivement, il s'agit d'un chef d'État. Et Didier l'a dit tout à l'heure que quand un président se déplace, vous avez vu que c'est pour aller assister à une messe, mais il y a eu tout le protocole d'État dû au rang de la personne qui est venue. Et vous avez vu dans les images qu'il y a des femmes qui ont jonché le passage du chef de l'État, qui acclamaient. J'entendais certains dire « Ah, eh bien, ministre, mais donc, finalement, vous sentez que la chose est vraie, religieuse, mais à côté, il y a ce bain de foule qui vient, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il devait faire, se passer au niveau de l'Église. Donc, un chef d'État, c'est le premier, et absolument, quand il se déplace, quel que soit le but pour lequel il se déplace, il y a ce côté insidieux, politique, qui vient s'ajouter à ce qui se fait. Et ce qu'on a vu hier, ce n'est pas que Faure est allé en campagne. Didier a dit tout à l'heure que s'il y a un nouvel agenda qui amène le chef de l'État à aller dans les autres localités, ça veut dire que quelque chose est derrière, caché. Mais chaque fois qu'un président se déplace, quel que soit le motif, il y a toujours cet engouement.
De toute façon, les gens trouveront toujours à dire, sinon même lui prêter des intentions.
Oui, Kakbala. Ce que nous devons retenir aussi, et cela n'est pas à oublier surtout, vous savez, c'est une organisation religieuse et l'évêque d'Anéon pouvait inviter le président de la République à venir assister à cet événement. Ça aussi, c'est possible. Quand les musulmans organisent leur événement, le président de la République est toujours aussi invité et c'est à lui de voir s'il est disponible, il y va. S'il n'est pas disponible, il délègue quelqu'un. Ça, c'est un. De deux, il faut qu'on sache aussi que lorsque le président de la République, quel que soit le chef d'État, qu'il soit d'où, il y a deux protocoles qui vont se croiser. Ici, il y a le protocole de la présidence et il y a le protocole de l'Église. Donc, il doit être protégé. Ça, il va avec tout l'arsenal de protection. Ça, c'est une chose. Maintenant, cela ne vient pas effacer toutes les dispositions prises par l'Église pour animer les messes, pour respecter la cérémonie.
Merci. Un auditeur dit espérer que Dieu a touché son cœur hier à Togoville et qu'il va vraiment gouverner dans le sens que les Togolais attendent de lui, à savoir qu'il fasse réaliser le bonheur. Ce lundi, enseignants et élèves ont repris le chemin des salles de classe après une semaine de congé de détente. C'était une grande première dans notre pays qu'en plein milieu d'un trimestre, les acteurs se voient accorder une semaine de détente. Sûrement qu'avec le temps, on aura une idée de comment chacun des acteurs, aussi bien les élèves que les enseignants, que les chefs d'établissement, que les parents, comment chaque acteur a pu gérer cette semaine de détente. On aura sûrement des informations là-dessus. Mais aujourd'hui, Uriel, ton journal Méga Info nous parle de cette expérience numéro 1 en termes de congé de détente. Et pour toi, ton journal dit il faut évaluer cette semaine de détente avant de poursuivre. Alors, il faudra y aller rapidement parce qu'on aura le même congé de détente en plein milieu du deuxième trimestre et également du troisième trimestre.
Oui, il faudra évaluer. Vous savez que en rendant public le découpage de l'année scolaire 2023-2024, les trois ministres, c'est-à-dire le professeur Dodi Kokoroko, le professeur Iwateba et le ministre Audin.
Disons, voilà. le ministre des enseignements primaires, secondaires, l'enseignement technique,
le ministre de
avec son ministre délégué, de même que le ministre de l'enseignement supérieur.
Et de la recherche. Voilà, lorsqu'ils ont rendu publique la décision, elle a pris en même temps effet. Juste un mois après la rentrée, les enfants sont rentrés en congé de détente. Comme vous l'avez dit, c'est une première au Togo. On ne l'a jamais vu. Maintenant, il faut passer à l'évaluation. On ne va pas se mettre à accorder des congés de détente comme ça à tous ces secteurs de l'éducation sans connaître les résultats. Est-ce qu'au cours des 10 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont-ils ennué les parents? Les parents ont été tellement embêtés par la présence des enfants à la maison. Est-ce que les filles se sont bien comportées? Est-ce que ça n'a pas été une occasion où on enregistre encore des grossesses en milieu scolaire? Tout ça, là, il faut que les trois ministres essaient d'évaluer. C'est très important. C'est une bonne chose de prendre cette initiative. Nous, on est plus proche du Bénin, on rentre au Bénin comme
vous
on veut.
Dans la Bina.
Dans la Bina, comme toutes les préfectures alignées sur la frontière.
Oui.
Mais quand vous allez là-bas, depuis que nous, on était au cours primaire, ces congés-là existent.
Le congé de détente est une tradition au Bénin. Déjà au Bénin.
Ça c'est de longue date. Ce n'est pas une nouveauté là-bas. Mais c'est la première fois qu'on l'apprend ici. Maintenant, il va falloir sérieusement que les trois ministres prennent les dispositions ensemble avec les directeurs régionaux de l'éducation, les inspecteurs, les directeurs d'établissement et tout, pour évaluer quel a été le résultat. Est-ce que les enseignants même, ils se sont sentis à l'aise? Parce qu'un mois après la rentrée même, laisser les enfants pour 10 jours et revenir, il faut étudier la psychologie, il faut étudier si on n'a pas perdu des choses. S'il y a un gain, on continue. Mais si on trouve que le Togolais n'est pas vraiment dans cette atmosphère de congé de détente, là, on continue sans encore les accorder au monde de l'éducation.
Merci, Arimio, je le disais, même si ça se fait un peu ailleurs, chez nous, c'est une grande première. Et nous venons d'en vivre la première expérience. les élèves, enfin le monde de l'école a bénéficié d'une semaine pleine et d'un week-end. C'est ce que Uriel résume en une dizaine de jours. Je ne sais pas si tu as encore des enfants dans les écoles primaires et secondaires. Sinon, tu partagerais avec nous comment, dans ta famille, Tchagnao, vous avez pu gérer cette semaine de...
Non, de moi, je crois qu'a priori, c'est une très bonne chose. Parce que quand vous regardez l'idée derrière, c'est de faire en ce que les enfants puissent avoir un petit repos psychologique. Parce que tout le temps, l'école, et sans qu'il y ait une petite pause, c'est une mauvaise chose. Je crois effectivement que si ça se fait ailleurs et que depuis, il n'y a pas eu de négation comme résultat, ça veut dire que les Togolais aussi pouvaient s'accommoder. Vous savez, avant, on ne faisait pas le système LMDA, le mais au Togo. Mais à un moment donné, les gens se sont accommodés et aujourd'hui, ça a pris.
Et à la différence que le LMD est une disposition commune de l'espace Uyumoua.
Justement.
Et dans l'enseignement supérieur.
Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que ce qui se vit au Bénin, c'est réel, c'est que depuis, ils sont frontaliers au Bénin et qu'ils y vont et que c'est de mise. Je crois qu'au Togo aussi, moi personnellement, j'ai trouvé ça très bien. Moi, je voulais même inviter les ministres à aller au-delà, à faire en sorte que les cours puissent être faits en journée continue, pour éviter que nos enfants aillent à l'école les après-midi sous le chaud soleil que nous connaissons. Vous savez, il y a des tréfonds du pays où, à certaines époques, il y a tellement de la chaleur que je ne crois pas que l'après-midi, avec le soleil, là, les enfants arrivent à apprendre ou à assimiler quelque chose. Même à Lomé, ici, il y a des écoles où un enfant, déjà même à 4 ans, 5 ans, les petits-enfants vont à l'école, on les fait dormir dans les écoles, à chaud, et ils reprennent les cours et ils reviennent tard dans la soirée, très fatigués. Donc, il faut trouver ces mécanismes qui permettent d'éviter que les enfants s'épuisent en journée. Un enfant qui va à l'école le matin, et c'est la mode à Lomé, les enfants vont le matin, déjà à 6h, 7h, et ils sont là pour rentrer à la maison à 18h. Ça ne donne pas de bons résultats, à mon avis. Et je sais que les techniciens, les gens qui s'y connaissent dans le domaine, peuvent aussi étudier et aller au-delà du congé qu'on vient de donner aux enfants, voir si, dans les années à venir, on ne peut pas faire les cours en journée continue pour nos enfants.
Mais ce que tu dis là, c'est déjà un fait hein, dans bon nombre
d'établissements,
notamment à Lomé, notamment les établissements qui ont grand nombre, qui ont un gros effectif et qui font double flux. Donc une première partie des élèves font leur cours la matinée, la deuxième partie vient dans l'après-midi.
Exact. Hein,
donc c'est un peu la variante.
Ouais.
Mais le problème que
c'est
tu poses là pour la chaleur,
oui,
cela vaut aussi bien pour ceux qui vont le matin et rentrent à 13h que surtout ceux qui vont à 13h pour ne sortir que vers les 18h.
Non, le problème que pose Tchagnao est réel. Mais il faut dire quand même que des efforts ont été consentis dans ce sens. Aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, pour la fluidité des classes, bon, ça aussi c'est un autre souci, c'est parce qu'il y a trop de nombres plus que dans les classes qu'on est obligé de les faire. Certains vont poursuivre les cours le matin, d'autres le soir. Mais il faut reconnaître quand même que c'est 8 heures de cours dans la journée.
Mm-hmm.
Donc 5 heures le matin et 3 heures l'après-midi, si vous voulez. Maintenant, s'il faut faire en journée continue, il faut voir comment planifier ces heures-là pour que ça puisse donner les
pour que les 8 heures du cours
soient effectives. Mm-hmm. Donc, je pense que techniquement, il y a les techniciens dans le secteur de l'éducation, ils sont en train de trouver les solutions et ils vont les faire. Le problème que nous avons aujourd'hui, hein, ne le cachons pas, c'est le manque de classes. C'est le manque de classes pour que les enfants, au lieu d'être 120 dans une classe, normalement, 30
au public, plus. Au public.
Dans une... La chaleur dont vous parlez, c'est parce que l'effectif est pléthorique. Sinon, si vous êtes 30 dans une classe, il y a l'aération. Mais au lieu d'être 30, vous êtes 120. Mais c'est insupportable. C'est ça aussi qui apporte la chaleur.
Merci. Alors, une auditrice qui nous suit partage avec nous l'expérience de la France à propos des congés de détente. En France, par exemple, toutes les 6 semaines, il y a un break. Pour ne pas dire une pause, il y a par exemple vacances de Toussaint, vacances d'hiver, il y a même vacances de neige, vacances de printemps, vacances de Pâques et vacances d'été. Donc chaque pays a la latitude d'organiser son année scolaire. L'essentiel, comme Uriel a dit, c'est que le nombre d'heures soit effectif pour épuiser l'agenda des curricula d'enseignement. Mais Didier, au-delà de cela, je voudrais plutôt que avec toi on aborde ce problème-là. Tu sais sûrement que le gouvernement, par le ministère des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique, vient de lancer un concours d'entrée aux écoles normales de formation des professeurs d'école, anciennement ENS à Takwame. Et la date, c'est le 10 novembre. Sauf que nous avons appris de sources concordantes que nombre de candidats, ceux qui voudraient postuler à cette formation, se trouvent bloqués à un problème, c'est obtenir le diplôme du bac 2.
Encore.
Diplôme du bac 2. Des gens se la demandent depuis 6 mois, voire même plus. Et jusqu'à ce matin même, j'ai accueilli deux parents qui étaient au bord d'une forme de crise. Ce matin encore, ils étaient à l'office du bac. On leur a dit que le document n'est pas encore prêt, qu'ils reviennent plus tard. Alors que la date de clôture, c'est le 10 novembre prochain. Voilà un problème que le ministre de l'Enseignement supérieur, et pourquoi pas et son collègue du primaire, du secondaire, doivent résoudre pour que les demandes d'obtention des diplômes soient délivrées à temps.
Non, moi je pense fondamentalement que même dans la préparation de ces concours-là, on a souvent quelques difficultés dans la liste des pièces à fournir. Parce que là, s'il faut rentrer à l'ENS, il faut prouver qu'on a eu véritablement le bac.
Anciennement ENS.
Oui, anciennement ENS, oui. Donc voilà. Comment il appelle l'école supérieure. L'école
maintenant,
normale
on parle
supérieure.
De école de formation des professeurs d'école.
Oui,
et école normale de formation des professeurs.
Oui, NF, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on connaît à Takwame. Donc, du coup, s'il faut demander aux Togolais de prouver qu'ils ont véritablement eu le bac pour postuler à l'entrée à cette école, que l'État sait ce qu'il faut faire. Nous tous, on a passé le bac, on nous avait délivré déjà le relevé de notes, on a eu l'attestation de réussite au bac. Donc, pourquoi on demande le diplôme
maintenant, on exige, on demande le diplôme même.
Oui, voilà.
Et c'est ce que les candidats ont du mal à obtenir.
Mais la plupart de Togolais, combien de gens ont eu le diplôme pour le bac? Mais la plupart, nous avons prouvé partout que nous avons eu le bac, soit avec le relevé, soit avec l'attestation. Mais peu de personnes savent même ce document-là de diplôme de bac existe. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'on est en train de compliquer la vie aux gens. Sachant déjà que la capacité de production de ces documents au niveau de l'office du bac, cette capacité-là est très réduite et c'est demander du travail supplémentaire à l'office du bac qui a déjà des difficultés pour délivrer un certain nombre de documents. Donc à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué. On sait ceux qui devraient postuler à des demandes de bourse après le bac, quelles difficultés ils ont à avoir un certain nombre, même certaines fois pour avoir l'attestation de bac déjà au niveau de l'office du bac pour postuler aux demandes de bourse. Ici, on a eu des cas comme ça et aujourd'hui, si on ajoute le diplôme à ces trois documents-là déjà qui servent déjà à prouver qu'on a eu le bac, je pense que c'est un peu trop demandé. Maintenant, si les deux ministres se sont assurés que l'office du bac a les capacités suffisantes de pouvoir produire les documents qu'on demande dans les délais impartis pour ne pas pénaliser des jeunes Togolais qui ont juste envie de postuler à l'entrée à l'école normale de formation des enseignants de Takwame. Donc, quitte à eux de vérifier et de travailler à ce que l'office du bac soit en mesure de délivrer ces documents-là, alors là, dans le temps. Sinon, si l'office est incapable de délivrer un document demandé par plusieurs, de plus le nombre de mois que tu évoques, six mois, voire deux mois, même plus pour certains, et qui n'arrivent pas à l'avoir, alors que le 10 novembre, c'est juste demain, ça pose un véritable problème de fonctionnement de certains organes de la République. Donc, peut-être que le ministre, je ne sais pas, qu'ils vont prendre un autre document ou un communiqué pour dire que des gens peuvent postuler en attendant avec le relevé de notes ou l'attestation de bac. Le temps que l'office du bac trouve les moyens de pouvoir produire les diplômes du bac, ça pourra permettre à tout un chacun de postuler à ces concours.
Merci. Si l'État a demandé, si l'État demande le diplôme du bac, ok, c'est prérogatif. Encore qu'on facilite hein, qu'on facilite l'obtention à ce diplôme-là, que les gens puissent l'avoir hein, dans les délais les plus brefs, même si cela doit vous coûter 6 000 francs CFA,
bah,
si vous voulez obtenir le diplôme du bac 2. Mais au-delà de ce diplôme du bac 2, qu'il faudra quand même régler hein, rapidement avant que... Hein, puisque c'est d'ici le 10 novembre, ceux qui n'auront pas pu avoir le diplôme de bac 2, est-ce qu'ils n'auront pas pu passer le concours là à cette école. Mais au-delà du diplôme de bac 2, nous constatons que c'est un véritable parcours de combattant hein, pour disposer des pièces hein, de notre République. Les actes de naissance, c'est vrai, on dira que certains ont été négligents par le passé, mais ces derniers temps, on a vu les communes, hein, Golfe 4 avec le maire Jean-Pierre Fabre, de même que la commune Golfe 6 avec le maire Jean-Baptiste Dagbovi, qui ont organisé des séances foraines pour délivrer les jugements supplétifs valant acte de naissance à certains citoyens. Même à l'université Kakpala, on a vu les universités de Lomé et de Kara organiser des séances foraines pour établir les certificats de naissance à des jeunes Togolaises et Togolais qui avaient le bac mais n'avait pas le certificat de nationalité. C'est un problème qu'il faudra aborder dans sa globalité.
Non, ça, c'est encore une preuve quand même que l'autorité a cette volonté pour contribuer à la facilitation de l'obtention des pièces, mais peut-être qu'il y a des pesanteurs que nous ne maîtrisons pas. Moi, je voudrais dire tout simplement au sujet du diplôme du baccalauréat deuxième partie. Je pense que si la décision a été prise pour exiger ce diplôme-là, ce n'est pas anodin. Vous savez, aujourd'hui, il y a trop de faussaires. Il y a tellement de faussaires. Les gens sont en mesure de vous sortir le relevé de notes du bac, l'attestation du bac, et avec tous les cachets, même cachets secs que vous connaissez. Les gens sont en mesure de vous les sortir comme si vous aviez obtenu le bac alors que c'est du faux. Donc, si la décision a été prise, c'est pour contourner ces actes-là et être sûr que les personnes, les candidats... dont on a affaire sont des détenteurs du diplôme de baccalauréat deuxième partie. Maintenant, il va falloir que, comme vous l'avez souhaité tous, que des dispositions soient prises pour que la délivrance de ces diplômes-là soit vite faite et qu'on ne connaisse pas les calvaires que les gens connaissent au niveau du certificat de nationalité, mis à part le passeport où on a la facilité un peu d'obtenir tout le reste des pièces. C'est un peu compliqué. Donc, vivement que le ministère qui organise ce concours prenne quand même une initiative hein, pour permettre à ceux-là qui ont obtenu le bac et qui ont la volonté de passer ce concours, qu'on leur accorde une marge de pouvoir passer ce concours.
Merci. Il y a posé notre problème, les faussaires. Les faussaires, ils sont aussi vieux que le monde. Et ça existe partout. Mais c'est encore la tâche régalienne de l'État de nous assurer que les papiers hein, qu'ils délivrent sont authentiques, hein, quitte à identifier les faussaires et à les mettre hors danger enfin, de nuit. Mais je reviens au problème essentiel. Nous avons des problèmes hein, pour obtenir les pièces qui font que nous sommes citoyens, l'acte de naissance au certificat de nationalité, en passant par la carte d'identité, en passant par le passeport, en passant par les diplômes et consorts. Harry Miaou, faut que l'État fasse un réel travail pour nous assurer, pour nous satisfaire dans les délais raisonnables.
Oui, ces pièces-là, je crois que ce sont des choses élémentaires que dans toute nation, on doit faire tout pour que les citoyens soient en possession de la plus facile, de la plus facile manière. Au Togo, c'est reconnu et tout le monde le sait. Et si aussi vous dites qu'il y a des gens qui font des audiences foraines pour permettre à des citoyens d'avoir certificat de naissance et nationalité, ça veut dire que l'État même reconnaît qu'il y a des difficultés, qu'il y a des pesanteurs et qui font que les gens n'ont pas atteint rien ces pièces-là. Donc il faut travailler là-dessus et je sais que l'État marque cette volonté, qu'il serait en train de travailler et à faire en sorte qu'on puisse faciliter l'accès à ces papiers-là, ces papiers vraiment importants pour tout citoyen, pour que désormais les gens ne souffrent pas, les gens ne peinent pas à chercher à avoir nationalité, naissance et même passeport. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie d'avoir ces papiers-là. Et quand on parle de ces faussaires, effectivement, les faussaires, il y en a un peu partout, même pour les passeports, les nationalités, il y a des gens qui tentent de le faire. Et très souvent, il arrive qu'on mette la main sur ces gens-là. Par rapport au diplôme, il faut laisser ceux qui veulent passer l'examen pouvoir le passer. Et le temps d'aller vérifier ces diplômes-là, on pourra, si besoin, y mettre la main sur ceux qui sont faussaires parmi eux.
Oui, Camille, pour clôturer ce dossier.
Je parlais, oui, de doter l'Office du bac de capacité à pouvoir produire dans les délais impartis le diplôme. Et je dirais la même chose pour la Direction nationale de la nationalité, je sais pas, le service de nationalité. Il y a un véritable problème là-bas. Et je pense même que certains services de l'État se font, il y a un peu comme une crise de confiance entre certains services de l'État. Vous savez, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le dépôt de demande du certificat de nationalité, par exemple, sur de nombreux mois, par exemple, et n'arrivent pas à avoir ce document, juste parce que à la Direction de la nationalité, on estime que quand des gens viennent avec le jugement supplétif, c'est pas trop sûr. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez un jugement supplétif et vous déposez une demande de certificat de nationalité là-bas. Vous allez traîner sur de nombreux mois et vous aurez toutes les difficultés du monde à avoir.
Disons que si vous soumettez le jugement supplétif tel quel, vous ne serez pas satisfait. On devrait vous dire de retourner à l'état civil pour faire transcrire le jugement supplétif sur l'original même de l'acte de naissance.
Bon, naturellement, donc à partir de ce moment-là, il y a un souci même d'information déjà au niveau de la démarche pour avoir ces pièces-là. Et ce que tu dis là, beaucoup de personnes ne savent pas. Et il faut justement que, au lieu de qu'on demande au niveau là-bas du service de nationalité, que des gens passent tout le temps au niveau du service de contentieux, il faut quand même qu'on dise clairement que quand vous importez telle pièce, pour prouver la validité de cette pièce-là, passez par telle case avant d'arriver. Et je pense que ça allait réduire le nombre, le trop-plein là-bas. Vous allez là-bas ce matin, lundi, jour de dépôt, vous allez voir le nombre fou qu'il y a là-bas. Et justement, pour le peu de personnel dont dispose ce service-là, de nationalité pour délivrer à tous les Togolais, les quelques 8 millions que nous sommes, cette pièce-là, ça va poser un véritable problème. C'est vrai que pour avoir le duplicata, il y a des mécanismes maintenant qui permettent de l'avoir facilement dans les préfectures, mais le seul lieu où on produit actuellement le certificat de nationalité, c'est là la direction à Lomé. Et donc, pour tout le Togo, c'est encore peu, et pour le nombre de personnel là-bas, on se demande comment ils se débrouillent avec la directrice. Donc, il faut peut-être que trouver un mécanisme de mettre un service secondaire dans le nord du pays, à Kara ou je ne sais pas, quelque part, pour permettre à ce que quelqu'un qui demande, qui cherche le certificat de nationalité, qui fait le dépôt, par exemple, à Dapaon, et les documents arrivent à Lomé, les dossiers arrivent à Lomé, et qu'il y a un contentieux autour d'une pièce, que la personne ne soit pas obligée de quitter Dapaon pour venir prouver la pièce là à Lomé avant de repartir pour espérer de façon hypothétique que ce document sorte un jour. Donc je pense fondamentalement qu'il y a un travail à faire à ce niveau là et ce qui, je peux même au ministère de la justice, on peut trouver un mécanisme de faire que pour ceux qui demandent le jugement supplétif, qu'on trouve un moyen que le document qu'on délivre aux citoyens soit un document valable devant le service de nationalité puisque c'est le même ministère. Mais si on va délivrer un document au niveau du ministère de la Justice et qu'on arrive à un autre service du ministère de la Justice et que ce document ne soit pas valable, je pense qu'il y a un problème avec la République.
Cela appelle même de nous, d'abord de l'État, hein, un grand travail d'éducation civique et citoyenne. Expliquer à la population la procédure pour acquérir telle ou telle pièce. C'est un travail de communication.
Oui.
Et Dieu merci, nous avons une grande communicatrice au ministère de la Communication. Il va falloir qu'elle le fasse avec son concert, avec son collègue de la formation de la citoyenneté. De grandes émissions nationales de la côte jusqu'à Saint-Cassé dans les langues pour expliquer aux populations toutes les pièces que nous devrions avoir, la procédure pour l'avoir. C'est important. Et pour terminer avec cette carte de le service qui délivre de cette carte de nationalité, vous connaissez le service là?
Ouais.
Non, ils ont besoin de locaux. Ils sont très à l'étroit avec un personnel très insuffisant. Quand vous allez là-bas, toute la foule que vous rencontrez dans la cour du matin au soir, non, l'État se doit de doter ce service-là d'un local et d'un personnel conséquent. Et puis comme Didier l'a dit, comment est-ce que quelqu'un qui est à Saint-Cassé doit venir à Lomé pour se faire établir son certificat de nationalité? C'est vrai, on nous dira, on peut déposer à la préfecture, mais avec tout le temps que cela soit acheminé de Saint-Cassé jusqu'à Lomé et que cela retourne, avec tous les risques également de conservation, de sécurité des pièces, il faut vraiment qu'on décentralise certains services pour se rapprocher davantage des populations. Et pour cela, il faudra de bonnes routes, n'est-ce pas?
Ah oui, sans la route.
Et comme Mega Info ne cesse de le rappeler, la route de développement passe par le développement de la route. Nous sommes souvent pleins de l'étroitesse, de la mauvaise qualité, voire même de l'insuffisance de notre réseau routier. La qualité des travaux qui n'est pas toujours au rendez-vous, les travaux qui traînent en longueur. Mais aujourd'hui, il s'agit de sauvegarder le peu que nous avons. C'est ainsi que il vient d'être installé à la sortie nord de Thiévier un poste de pesage sur lequel reviennent des journaux comme Nouvelle Opinion qui écrit « Un poste de pesage de Thiévier, le gouvernement s'accommode au règlement 14 de l'UEMOA. » C'est au sein de l'UEMOA qu'il a été décidé ce règlement 14 pour les charges à l'essieu et protéger nos routes. Mega Info aussi qui écrit « Fonctionnement effectif du pesage de Thiévier, un outil essentiel pour la longévité du réseau routier. » Nous rappelons ce règlement 14 parce que Uriel, comme nous le devinons, certains vont seulement voir dans le poste de pesage une énième station pour prendre de l'argent aux populations. Il faudra expliquer le bien fondé, pourquoi il faut ce pesage-là à Thiévier.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je commence par là où vous avez chuté. Un poste de pesage n'est pas installé pour la perception des taxes. Non, pas du tout. C'est pour peser les camions, les gros transporteurs, là, pour voir s'ils sont en règle avec la charge. Mm-hmm. C'est pourquoi un pont bascule a été construit pour que le camion puisse passer. On voit s'il est en surcharge ou bien sa charge est conforme. Donc, le règlement 14 de l'UEMOA voudrait bien que la zone puisse conserver, vous l'avez dit, le peu que nous avons déjà avant de voir les projets à venir. Si vous avez des routes où les camions surchargent et passent chaque jour, soyez-en sûr, ces routes seront dégradées d'une façon prématurée. Aujourd'hui, on a deux postes de pesage. Avant, il n'y avait que le pesage de Djerewe à la sortie nord d'Atapame. Mais l'État a pensé que ce n'était pas trop bien puisque de Lomé à Atapame, c'est une grosse distance. Et Lomé, c'est le centre d'émission. Donc, tous les gros porteurs là sortent de la région maritime. Donc, ils ne vont pas dégrader la route comme ça jusqu'à Atapame avant qu'on ne constate qu'ils sont en surcharge. Il fallait mettre un poste de pesage au niveau de Thiévier pour que tous les camions qui sortent, que ce soit du port, que ce soit de Pia, que ce soit ceux qui transportent les clinkers au niveau de Tablibo, qu'ils puissent passer par ce pesage-là, qu'on se rassure que le poids est conforme. Si le poids n'est pas conforme, il va délaisser. Hein, on va, la partie délaissée sera chargée dans un autre camion et il sera convoyé.
Alors, question toute naïve, Yurke Kakbala, est-ce que le passage d'un véhicule sur la bascule est payant?
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas payant.
Maintenant, si un camion est surpris en flagrant délit de surcharge, qu'est-ce qu'on lui fait?
Non, il y a deux cas. Il y a quand même ce qu'on appelle la marge de tolérance. Si la surcharge n'excède pas 4 tonnes, on fait payer cette surcharge-là et le camion continue le trajet. Mm-hmm. Maintenant, s'il excède 4 tonnes, il va garer. Il y a un endroit prévu pour ça. Il fait venir un autre camion il va décharger le surplus, il vient repasser sur le pont bascule. Alors, lorsque la machine note le poids conforme, il continue. Et la partie délaissée est transportée par un second camion. Et c'est lui qui paie toute cette tracasserie-là. Il va payer aussi pour le convoiement. Il sera escorté par la sécurité jusqu'à destination.
Autrement dit, surchargeur-payeur.
Surchargeur-payeur. Le passage, tout simplement, n'est pas payant. Pas du tout. Et il faut noter aussi qu'il y a un troisième poste de pesage en cours de construction à Mango. Et là, le maillage sera complet. Quand vous quittez Lomé, vous êtes pesé à Thiévié, vous êtes pesé à Djeroué et vous êtes pesé à Mango. Vous ne pouvez rien. C'est la surcharge qui est le premier facteur de destruction des routes. Donc, il va falloir qu'ensemble, on puisse lutter contre ce phénomène-là pour préserver les infrastructures.
C'est important parce que nous venons d'avoir Thiévié qui vient s'ajouter à Djeroué. Oui. Mais entre-temps, des gens peuvent venir depuis le Bénin, passer par Djougou, passer par Kétao, rentrer dans notre réseau. Ils seront donc...
Vous avez tout compris.
Pris
en flagrant délai au niveau de Mango.
OK. Voilà. Comme je l'ai dit ce matin, le débat n'est plus... sur la qualité de notre réseau routier, mais comment protéger le peu que nous avons. Donc, la surcharge que nous combattons. Mais il y a un autre phénomène, et c'est ce matin que j'ai fait ce vieux constaté au grand carrefour de Adido Gomé. Il y avait des jeunes hommes et jeunes femmes qui tenaient des pancartes au nom d'une ONG, et sur la pancarte, c'était écrit « Ne jetez plus vos déchets sur la route. La route n'est pas un dépotoir. » Et ça a attiré mon attention. J'ai voulu partager avec nous Didier Assogba. Hein, à bord de nos véhicules, il arrive que des gens mangent et puis ils jettent les sachets, les épluchures de ceci et cela. Non seulement ils salissent la rue ou bien la route, mais ils ne font pas attention à ceux qui viennent, aux usagers de la route qui sont derrière eux et qui viennent et qui pourraient également blesser. Alors, l'action de cette ONG, cette ONG me semble utile qu'on en parle ici.
Je crois que c'est une action à saluer. C'est très à saluer parce qu'on a besoin de telles initiatives. En réalité, on n'a pas besoin de rappeler aux gens que la route n'est pas un dépotoir. Tout le monde connaît le dépotoir, tout le monde connaît les poubelles à la maison ou devant la maison. Tout le monde connaît les dépotoirs, mais la route n'a jamais été le dépotoir. Mais on a pris la vilaine habitude, autant pour moi, de transformer nos routes en dépotoirs. C'est vrai, on en voit les conséquences avec quelques problèmes d'inondation, avec les caniveaux bouchés ici et là, avec beaucoup de sachets plastiques. Et je crois que ceux qui sont à bord des voitures savent que quand ils finissent de manger ou de faire quoi que ce soit à bord de leur voiture, il faut justement, ce qui est conseillé, c'est de laisser le déchet dans la voiture et d'arriver à destination pour évacuer les déchets. Mais bon, après, je ne sais pas combien de gens à bord de la voiture jettent assez de sachets, assez d'ordures, mais le nombre de motos qu'on a, quand eux, ils vont finir de boire le pierre wata, ils vont jeter où les gens de moto? Donc, je crois que c'est un problème global. Il faut peut-être leur dire de ne pas jeter, mais c'est très facile. Le réflexe avec quelqu'un qui a moto de jeter très rapidement quelque chose dehors, c'est très facile, mais c'était
ONG. Il faut seulement recommander à notre ami à moto de s'arrêter d'abord pour boire ce qu'il boit, pour manger ce qu'il mange, avant de reprendre la route. Il y va même de sa sécurité. Comment est-ce qu'on peut boire ou bien manger pendant qu'on est dans la circulation?
Ça, naturellement, je ne t'apprends rien dans la circulation à Lomé. Je ne t'apprends rien de la circulation de Lomé. Donc, c'est déjà très bien que cette ONG essaie de nous le rappeler. C'est un comportement responsable à avoir, ne jamais jeter des ordures sur la route. Et je pense qu'il faut multiplier ces genres d'initiatives. Et déjà que nous faisons le relais ici à la radio, je pense que le nombre de ceux qui nous écoutent savent que ce n'est pas bien de jeter les ordures sur la route. Déjà qu'on voit nos vieilles mamans et nos sœurs qui balaient la route des fois sous le chaud soleil pour enlever ces ordures-là, c'est déjà très pénible. N'ajoutons pas du travail au travail.
Niveau, c'est le sable uniquement.
Mais quand ils balaient le sable et qu'il y a des sachets, ils doivent balayer.
Si nous déconseillons aux usagers de la route de ne pas jeter les déchets dans la route, il faudra également, Arimiao, qu'on s'adresse aux usagers de nos voies. dont certains déposent leurs ordures, même de leur ménage, dans la rue. C'est des comportements qui révoltent, mais que nous constatons également dans notre ville.
Oui, je crois que cette ONG-là, il faut l'encourager et la féliciter et dire que les Togolais ne sont pas compliqués. Et je crois que c'est la pédagogie, et telle que nous le faisons ici, quand on va le faire pendant un mois, deux mois, vous allez voir que ça va rentrer dans l'habitude de tous les citoyens togolais. Moi, je me rappelle qu'il fut une époque où il y avait cette campagne intense dans le pays où on instituait les gens, on demandait aux gens de laisser les poubelles un peu partout. Les collectivités locales, les mairies aujourd'hui peuvent prendre à main ce volet-là et faire en sorte qu'il y ait des poubelles un peu partout. Et nous, et les maires, et tous ceux qui sont concernés par ce domaine, on peut continuer par sensibiliser les Togolais. Vous allez voir que ça va rentrer de si peu dans les habitudes où quand quelqu'un mangerait son maïs et qu'il voudrait jeter le résidu, il va se dire « Ah, c'est interdit !» Quand quelqu'un voudrait jeter le sachet, il se rappellera qu'il a été dit et qu'on continue par sensibiliser. Et finalement, ça va rentrer dans nos habitudes.
Merci. Plutôt que de se rappeler que c'est interdit, je voudrais plutôt qu'on se rappelle que ce n'est pas bon.
Pas bon, voilà, c'est ce que je voulais
dire.
Ce n'est pas interdit,
oui, mais ce n'est pas bon pour nous-mêmes.
Merci.
Et pour notre ville.
Et je crois que ça va arriver.
Merci beaucoup. Il nous reste juste 3 minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde rapidement le volet justice. Chez nous ici, c'est le tribunal militaire qui est à ses audiences. En principe, les audiences devraient reprendre ce début de semaine, aujourd'hui. Mais la semaine passée, on a vu le réquisitoire du procureur de la République. Après les témoignages, on a écouté le réquisitoire du procureur de la République. Le vendredi, les avocats auraient dû plaider, mais ils n'étaient pas là. Ils ont demandé un sursis. Peut-être qu'aujourd'hui ou en début de semaine, les séances vont reprendre. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est deux titres de journaux, à savoir le correcteur qui écrit que le tribunal militaire confirme le verdict des oracles. Les oracles avec les pratiques mystiques, c'est également ce qui est apparu lors de ce tribunal. Pendant que Liberté donne la parole à une avocate, maître Mawaba Balouki Songé, pour qui ce procès est fait pour régler des comptes entre anciens amis. Mais je voudrais également que nous partagions un peu cette expérience, cette grande première en France. Aujourd'hui, 6 novembre, il s'ouvre un procès contre Éric Dupond-Moretti, c'est le ministre français de la Justice. Et c'est devant la Cour de justice de la République. Il est reproché à Éric Dupond-Moretti des prises illégales d'intérêt. Plus précisément, il est reproché au ministre de la Justice d'avoir profité de sa fonction de ministre pour obtenir des sanctions infondées contre des magistrats qui enquêtaient sur ses clients et amis. Juste rappeler que Éric Dupond-Moretti est un avocat et on l'accuse de se servir de sa position de ministre de la Justice pour prendre des sanctions contre des magistrats qui enquêtaient sur les clients et amis de Dupond-Moretti. Alors, l'enseignement que je voudrais que nous dégageons, c'est que même si nous sommes égaux devant la loi, mais il faut des juridictions spéciales pour juger, pour connaître certains dossiers. Au Togo, ici, c'est le tribunal militaire, mais en France, c'est la Cour de justice de la République. Chez nous, ici, il est prévu une juridiction similaire, la Haute Cour de justice, dans la Constitution, mais qui n'existe pas encore dans les faits. Un tour de table, une minute à chacun. Oui. Une minute, s'il vous plaît. Une minute.
Non, ça fait deux sujets. Mais
toi, qui étais enseignant, résume l'essentiel.
Ok, non, je vais parler sur le sujet lié au Togo. En France, c'est la grande démocratie. Ce qui se passe là-bas, ça ne peut pas se passer ici comme ça. Donc, vous savez, par rapport à ce procès, moi, je me réserve beaucoup. Mais ce que je connais, ce qui m'a beaucoup intéressé, ça me fait rire chaque jour, c'est cette histoire de charlatans dans les camps. Ces charlatans qu'on consulte pour voir qui a fait ceci, qu'est-ce que demain, de quoi sera fait demain. C'est ça qui me fait rire chaque jour, je vous assure. Parce que si vous avez la chance d'être là un peu chaque jour avec ces gens-là, vous allez constater que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à ce volet-là. Même pour aller en mission, tu vas l'entendre dire qu'il va aller au village.
D'abord.
Il va aller au village. Donc moi, ça ne m'a pas étonné. Et chaque jour, ça me fait rire. J'ai dit, mais attends, si on a affaire à des gens qui doivent consulter les charlatans avant de voir s'il faut aller protéger tel quartier ou tel autre, là, nous sommes foutus. Il faut vraiment qu'un travail sérieux soit fait. Il faut qu'on se départisse de certaines dimensions. Et surtout, ces dimensions spirituelles-là, quand on met ça au niveau de ce qui concerne la République, nous sommes foutus. Donc, pour le procès, je ne maîtrise rien.
Merci.
Je ne
maîtrise vraiment rien. Voilà, l'homme est tout simplement bizarre. Si tu savais ce que chacun de nous fait avant de quitter sa maison et de rentrer... Ok, reçu le sujet, Didier.
Non, d'abord pour la haute cour de justice en France, je présume qu'ici, il n'y a pas encore un haut fonctionnaire ou un haut fonctionnaire ou une haute personnalité de la République qui est passible ou qui est susceptible de passer devant une telle cour. C'est pour ça qu'on ne l'a pas encore opérationnalisé. Pour faire le parallèle ou pour faire le lien, peut-être si vous voulez, avec le procès en cours, mais le tribunal militaire, la justice militaire, il y a quelques jours, c'était plutôt dans l'idéal. Les gens s'imaginaient, c'était dans l'imaginaire collectif qu'il va avoir une justice militaire jusqu'à ce que des hauts gradés de la République soient pris, soient arrêtés et qu'ils soient renvoyés devant un tribunal militaire et dont on a rapidement, en quelques mois seulement, sinon 3-4 mois, opérationnalisé la justice militaire. Et aujourd'hui, on voit cette justice militaire en train de juger des gens qu'on pensait hier...
Intouchable.
Donc, c'est dire que même des gens aujourd'hui qui se trouvent haut fonctionnaires, ministres de la République, ben attention, on peut rapidement opérationnaliser une haute cour de justice contre vous.
Merci.
Quant au procès, bon voilà.
Tchanyao,
tu ne maîtrises pas. Moi, je voulais juste dire que le Togo est en marche parce que quand vous allez faire un tour au niveau du tribunal et que vous allez voir tout ce que j'ai vu en une journée, vous allez dire que le Togo est en marche. Et par rapport à la volonté du président de la République, et je me dis aussi que le Togo, dans sa marche, va instituer très bientôt peut-être cette haute cour de justice pour se conformer aux normes orthodoxes de ce qui se fait en matière de justice. Parce que le Togo se construit et montre aux yeux du monde qu'il est une démocratie.
Merci. Souffrez que je vous arrête là. Nous avons déjà pris 3 minutes sur le temps des auditeurs. Maintenant, nous plions. Michel.
93.5. Canal FM.
Eh bien, c'est parti. Nous nous branchons sur vous. Les deux numéros que vous connaissez déjà. Vous avez écouté les sujets dont nous avons débattu. Nous avons besoin de votre éclairage sous forme de questions, de commentaires. Un premier auditeur qui va s'annoncer. Je rappelle que nous avons parlé du 50e anniversaire du pèlerinage marial à Togoville avec Fornia Singbe qui était. Nous avons parlé de la reprise des salles de classe aujourd'hui après le congé de détente. Quel enseignement avons-nous tiré de cette expérience de congé de détente pour aborder le reste du trimestre? On a parlé du réseau routier et de la justice spéciale ici au Togo ou en France. Premier auditeur en ligne aujourd'hui, bonjour.
Allô, bonjour, Serge.
Oui, Didier.
Oui, ouais, bonjour, mon ami Tanyao.
Comment tu vas, Didier?
Oh, alhamdoulilah.
Dieu merci.
Le week-end. Je ne vous ai pas vu à Togoville.
Je n'étais pas informé, sinon je devais y être.
Ah, vous-même?
Ah, mais comment? Bizarre,
hein? Didier, je vous rappelle que Harry Miao, jusqu'à ce matin, il est musulman.
Aladji, en plus.
Bah, il pourra accompagner le président, puisque moi, je me suis dit que le poste de ministre de la communication, c'est pas à la dame là qu'on devait donner.
Non, le gouvernement, le chef de l'État et le premier ministre, ils ont leur raison de composer le gouvernement, Didier. Restons sur le terrain des informations que nous avons discutées aujourd'hui.
Ok, merci. Bon, moi, M. Tanyao, ne nous induisez pas en erreur. Hein. Vous avez dit en fin de l'émission que le Togo est en marche. Le Togo en marche comment? Parce qu'on est en train de juger quelqu'un qui a touché à leurs intérêts. Mais pourquoi les gens qui ont été faussés, tués dans les manifestations, le jeune mécanicien, les taux de sang, pourquoi on ne mène pas les militaires, ceux qui ont tué les gens-là à la communauté. Parce que cette fois-ci, tout ça les intéresse. Pourquoi? Si quelqu'un pense que c'est l'impunité qui sanctionne, la personne est tellement naïve. Hein. Mais je sais que vous, vous n'êtes pas naïve. Et puis, je voudrais, pour finir, je voulais dire, le chef d'État serait plus grand, ce serait plus aussi, ce serait bien, très bien même, bien vu, même si le chef d'État partait à Togoville, sans tout ce protocole, l'hymne national, détachement des forces armées, il pourrait aller, c'est le peuple qui est son rapport, c'est pas l'armée qui est son rapport. Donc, ce serait plus intéressant, plus, c'est pas le mot, je voulais pas dire le mot, ce serait plus élégant. Donc, on dirait que voilà un croyant qui est parti rencontrer son son Dieu. Aussi que vivement que le Pérénat touche son cœur pour qu'il le Pérénat puisse mettre la ténace dans son cœur. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Didier. Bonne semaine à vous. Un autre auditeur qui s'annonce déjà. Et bonjour, monsieur. Bonjour, madame.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Oui, c'est monsieur.
Johannes. Oui.
Vous nous avez donné un prénom, mais d'une Togo, il n'y a pas longtemps là. C'est comme là, non?
Oui, comme là, Johannes.
Ok, comme là, Johannes. Comme ça, c'est beau, c'est complet. Nous vous écoutons.
Ok, je vous salue tous. Monsieur Sass, il y a une information qui circule depuis ce week-end, comme quoi il y aurait une somme de près ou de plus de 400 millions qui aurait été volée au domicile d'un ministre. Bon, j'aurais cru que c'est une information dont vous aurez débattu, mais j'en suis étonné que ce soit passé sous silence. Bon, c'est votre choix peut-être, mais c'est étonnant. Non,
à cela, c'est clair. Comme là, Johannes, le Club de la Presse est une émission de revue de la presse. Vous voyez, à chaque fois que nous mettons un sujet, nous citons les articles que les journaux y ont consacrés. Donc, je n'ai pas eu de journal qui ait traité de cette information. Mais pourquoi pas dans les jours à venir? Soyez rassurés. Le Club de la Presse n'a peur d'aucun sujet. Nous voulons juste nous assurer de la véracité. Nous faisons notre enquête autour pour avoir tous les éléments de débat. Et puis basta, on y va.
Ok. Monsieur Tanao voit toujours le Togo en marche dans tout. Hein. Le Togo est en marche. Tantôt Lomé est en chantier, le Togo est en chantier. Je ne vois pas en quoi ce procès est un signe que le Togo est en marche. Comme Didier qui m'a précédé l'a dit, mais on n'aurait pas eu vent de ce procès si ce n'est pas un colonel qui a été assassiné dans un camp. Donc, bref, on dit le Togo est en marche. C'est-à-dire que ce procès serait fini, on va le refermer. Et je ne pense pas qu'il y aurait un autre militaire qui sera appelé là-bas parce qu'il a tué un civil. Pour rien, je ne pense pas. C'est là où on pourrait dire que le Togo est en marche. Donc, au lieu de dire, de voir dans le Togo en marche, nous aussi, nous aimerions que le Togo soit en marche.
Alors, comme là?
Oui.
Et pour vous, le Togo n'est pas en marche? Le Togo est immobile, assis quelque part?
Faut pas qu'on voit le Togo en marche dans une.
Alors,
une situation
vous le voyez comment, le Togo?
Ça, je dis, faut qu'on voit le Togo en marche dans une situation où réellement le Togo est en marche.
Ok.
C'est ce que je dis.
Merci beaucoup. Merci, comme là, Johannes. Harry Miaou, interpellé par deux fois, aura le temps de réagir. Mais priorité aux éditeurs. Bonjour, l'ami.
Bonjour.
Oui.
C'est Niamavo.
Monsieur Niamavo.
Oui, je remercie Didier pour avoir rappelé le passage de fort avec l'armée. Je crois savoir que même si Dieu était à Togoville, il va fuir.
Et pourquoi?
Parce que c'était les bottes là-bas. Je ne suis pas sûr que Dieu va être honoré par l'armée comme ça. C'est bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'on va en un lieu de culte avec une armée, les gens habillés avec des bottes. Vraiment, ça va laisser certains perdre leur foi, quoi. Mm-hmm. Ces lieux-là, il faut aller simple. Comme Didier l'a dit, une personne invitée et là-bas, là, je ne suis pas sûr que les prêtres étaient en eux pour donner une bonne prière aux gens. Mm-hmm. Je vous remercie.
Je vous en prie, M. Niamavo. Alors, est-ce que Fall Niasingbe devrait être à Togoville comme simple croyant, simple ou bien comme chef d'État avec tout l'appareil d'État? C'est un bon débat qui doit s'animer. L'auditeur suivant, bonjour.
Sass, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Garo.
Monsieur Garo, nous vous écoutons.
Bon, vous savez, monsieur Tchanyawa dit que le Togo est en marche. Je suis d'accord avec lui. Mais ce que moi je voudrais, je veux que le Togo court pour dépasser les autres nations en faisant rentrer à Gbomi Podro. Qu'en pense-t-il? Merci.
Je vous en prie. Le Togo en marche, c'est bien, mais le Togo en course, c'est encore mieux. Hein, pour Monsieur Garo. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le suivant, bonjour.
Monsieur Tass, bonjour.
Bonjour.
Oui, combattez d'Avenou.
Combattez d'Avenou.
Oui.
Le tien-là.
L'Allemand.
Mm-hmm.
j'ai constaté.
Oui.
Quand vous faites la remarque, nos chers policiers qui sont sur les routes, les casques qu'ils portent ne sont même pas noués. Or, ça devait être des casques bien noués. Pour donner l'exemple, à ces motocyclistes qui roulent avec des casques qui ne sont pas noués.
Mm-hmm.
Je trouve que quand quelqu'un roule avec un casque qui n'est pas noué, c'est plus dangereux que celui qui n'a même pas porté.
Oui.
Donc, j'allais prier nos chers policiers de la BN, eux-mêmes, de nouer leurs casques.
Mm-hmm.
Et de traquer tous ceux-là qui portent des casques non noués.
Merci beaucoup. Hein. Mesdames et messieurs les policiers qui règlent la circulation, c'est bien de porter le casque, mais c'est encore mieux de le nouer hein, pour montrer l'exemple hein, aux motocyclistes. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Le plateau. Oui, bon.
Armand.
Ah oui, c'est Armand. Oui.
Oui, oui.
Bonjour, le plateau.
Nous vous saluons aussi.
Oui, je... J'aimerais dire que, quelles qu'en soient les choses, quand un enfant naît, il doit commencer par ramper et ensuite il marchera. On dira quelque part que l'enfant grandit, c'est-à-dire l'enfant évolue d'une manière ou d'une autre.
Mm-hmm.
Donc aujourd'hui, bon, les gens qui trouvent que le Togo n'évolue pas, il y a déjà 10-12 ans en arrière, le Togo n'était pas ce qu'il est maintenant. D'ailleurs, même, il faut tout simplement voir le chef de l'État qui est actuellement au pouvoir. Ce n'était pas le même chef de l'État. Donc, il faut que les gens sortent un peu de leur émotion pour dire les choses comme il se doit.
Donc, pour vous, Armand, vous diriez un peu comme Arine Yaoku, le Togo est en marche.
Évidemment.
C'est ça?
Évidemment.
Okay,
même quelque part, quand on prend Gaza, on dirait toujours que Gaza est en marche. C'est une manière aussi, c'est une marche aussi.
Mm-hmm.
Donc, j'aimerais aussi dire aux gens de ne pas trop rester dans cette histoire de Dieu n'aime pas, Dieu. Bon. C'est un chef de l'État. Quand un chef de l'État va quelque part, il faut tout simplement regarder vers Rome, le Vatican.
Voilà.
La manière dont on accueille le pape. Le pape est un chef de l'État. Oui. Donc, la manière dont on l'accueille. Et puis, dans les guerres, regardez un peu dans les coulisses. Les prêtres viennent bénir les armes avant d'aller au combat. Donc, il faut que...
Merci. C'est pas une émission sur les religions. C'est juste Fort Nyanzimbe à Togoville. Hein, doit-il être comme un anonyme togolais ou bien dans sa stature de chef de l'État? Mais je rappelle que nous avons parlé également de nos routes. Hein. Nous avons parlé également de la reprise de l'école après le congé de détente. Nous avons parlé également des difficultés que nous avons à nous faire délivrer les actes hein, d'état civil, toutes les pièces dont le diplôme de bac 2 dont des jeunes Togolais ont besoin pour postuler à ce concours. L'auditeur suivant, bonjour.
C'est comme la de Johannes de retour.
Ok, bon retour.
Oui, que les gens se rassurent, je n'affirme pas que le Togo n'est pas en marche. Je reconnais bien sûr que le Togo est en marche dans certains domaines, sauf que faut pas qu'on voit le Togo en marche dans des domaines où c'est le Togo est plutôt en recul par rapport à d'autres.
Donc vous souhaitez que cette marche-là soit vraiment inclusive et touche tous les domaines de la vie nationale.
Voilà. Non crédible serait ce citoyen qui dirait que le Togo n'est pas en marche.
Mm-hmm.
Le Togo est en marche.
Okay.
On aimerait plus que ça. Et il ne faut pas que Tchanyaou nous dise que quand il dit que le Togo en marche, ça énerve certains. Non, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il le dit souvent. Que s'il vient, il dit que le Togo en marche, ça énerve certains. Non, pas du tout. Qu'il ne pense pas ça.
Merci. Non, il ne le pense pas. Hein. Mais vous souhaitez quand même que la marche soit inclusive et touche tous les domaines. Et notre ami Gado qui nous demande même de courir. Marcher, c'est trop lent. Il faut que nous courions hein, pour devenir ce pays réellement émergent. Dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Natema.
Monsieur Natema.
Oui.
Eh bien, nous écoutons.
Bonjour, le plateau. Je vous salue tous. Vous avez parlé des routes. Et hier, moi, j'ai vu un accident. C'est un gendarme qui est mort. Et c'est un corps habillé qui l'a tué.
Ah bon?
Donc, c'est par erreur. Il a pris le sens interdit. Quand il est sorti, au lieu d'aller faire le rond-point, il a pris le rond-point. Il n'a pas fait le rond-point. Donc, il venait pour aller faire ça de l'autre côté. Et l'autre, il était vers le terrain central. Bon, lui, il lui laissait la place. Il est revenu à son bord.
Monsieur Natema, allons-y posément. Quel usager a violé le code de la route?
C'est celui, le soldat qui était à moto.
Le soldat, le militaire.
Oui.
C'est lui qui a violé. Il n'a pas pris le carrefour dans le sens qui indiquait.
Oui.
Il est allé percuter le gendarme.
Le gendarme qui
lui était dans son couloir.
Oui. Et il est mort sur le champ là-bas, entre l'hôpital de Legbassime et Carrefour, voilà là. Quelque part là-bas comme ça.
Ah, le gendarme était à moto bien en voiture.
Et l'autre était en voiture.
Qui était en voiture?
L'autre qui l'a pris avec sa voiture, c'est lui qui est parti.
Le militaire qui a violé la route était en voiture.
Oui.
Il est allé tamponner le gendarme qui lui était dans quel véhicule?
Oui, dans sa voiture.
Ah, dans sa voiture aussi?
Oui. L'autre était à moto.
Ah, le gendarme était à moto.
Oui.
Et le militaire qui a violé le code de la route et allait percuter le gendarme à moto.
C'est celui de moto qui a violé, qui a pris le sens interdit.
Posez-moi, monsieur Natema.
Oui.
Qui a violé le code de la route?
C'est le gendarme qui était motorisé.
Le gendarme à moto a violé le code de la route.
Et l'autre, voilà. Militaire.
Et il s'est fait ramasser par le militaire dans sa voiture, mais qui était dans ses droits.
Oui, il est mort Christian là-bas.
Ok, alors le son.
Le tout, c'est pour dire que moi, je voulais inviter les Togolais. Faisons tout, parce que quand vous prenez le grand contournement, vous allez voir ces gens de comportement. Oui. Les gens ne veulent pas aller faire le rond-point et prendre leur voie. Même au niveau de Ouando, ça se passe là-bas, aux yeux et ciel ouverts des policiers. Ils sont là-bas. Moi, je m'arrête des fois, je leur dis, dites aux gens, ceux-là qui font comme ça, dites, il faut leur dire, il faut aller par là, vous faites le rond-point et vous revenez sur votre droite.
Merci
avant d'aller
pour ce vieux constaté. Ils ne font pas. Toutes nos condoléances à ce compatriote gendarme, à toute sa famille. Malheureusement, il a violé le code de la route et il a payé jusqu'à sa vie. Nous qui sommes encore vivants, nous devons en tirer l'enseignement qu'il faut.
93.5
FM. Ouais, aux auditeurs qui co-animent avec nous, c'est avec vous que le débat est plus riche et plus inclusif. Soyez rassurés, tous vos points de vue sont les bienvenus. Nous voulons juste nous assurer que tout ce que nous disons est avéré en termes d'information ou de critique. Harry Miaou,
oui.
Interpellé par 3 voire 4 auditeurs aujourd'hui, alors très rapidement pour leur répondre.
C'est pour dire que cela nous démontre à suffisance que les gens nous suivent. Et premièrement, je voulais dire que c'est la première fois que j'ai dit à ce micro que le Togo est en marche. Mais je le dis et j'assume parce que celui qui connaît le Togo d'il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans en arrière sait que le pays est en train de changer. Et tout ce que j'ai dit, je l'assume parce que quand on me dit que le chef de l'État était, il y avait les militaires, je voudrais dire qu'il n'y a aucun président de ce monde qui irait à un pareil événement et qui n'aura pas le protocole pour assurer et sa sécurité et pour tous les honneurs dus à son rang. Donc cela aussi, j'assume. Mais je voulais dire que nous ne venons pas ici pour faire de la fantaisie. Ce que nous disons, c'est à ce même plateau que j'ai critiqué le gouvernement en disant qu'il y a cette lenteur ou cette négligence au niveau de la délivrance des pièces d'identité, qu'il faut accélérer. Donc nous disons les choses telles qu'elles sont. Et moi, je me dis que nous faisons du bon boulot. Mais il y a de ces Togolais, comme mon ami Didier, qui me paraissent ne pas avoir l'impression d'entendre qu'on dise que quelque chose est bon au Togo. Pour eux, il faut qu'on dise que rien ne marche. Le Togo est statique, tout est au noir. La boussole, elle ne bouge pas. Le Togo est comme ça, les cadrans de la montre, c'est comme ça au Togo. Non, je ne vais jamais accepter. Quand c'est bon, je dirai que c'est bon. Quand c'est mauvais,
merci,
je le dirai. Et je crois
beaucoup,
que c'est comme ça que je fais tout.
Didier Kouami.
Bon, que dire d'autre? Le débat, j'avais déjà dit dès le départ que le débat entre le fidèle Fornia Simbe qui se déplace au pèlerinage et le chef de l'État, ce débat-là ne va pas s'arrêter. Certains seront pour, certains seront contre. Et donc ça, là, on ne va pas trancher ça au plateau ici. Nous restons dans notre position et dans notre statut de journaliste à chacun de faire ses analyses. Mais on sait que c'est très compliqué. C'est un peu comme dire que le chef de l'État a une vie privée, a une vie publique et tout ça. Ces débats-là, on ne pourra jamais les trancher. Certains auraient voulu qu'il y aille sans les militaires, mais les militaires aussi ne voulaient pas le laisser aller seul. Donc, ici,
on a vu des chefs d'État se rendre à des manifestations civiles beaucoup plus discrètement, comme le président Talon ici, qui est allé à des concerts, à d'autres manifestations civiles, et c'est à la fin même que les gens se sont rendus compte qu'il était là. C'est un peu cette discrétion que les gens auraient voulu de la part du chef de l'État, Fornia Simbe. Mais comme tu le dis, le débat, il est ouvert.
Oui, évidemment, le débat est ouvert. Donc, pour le Togo, nous, comme j'ai aimé l'intervention de M. Gado, c'est ça, M. Gado,
qui a dit que pour ceux qui disent que le Togo marche ou le Togo ne marche pas,
naturellement, oui, mais nous voulons tous que le Togo court, ou pourquoi même voler pour dépasser d'autres nations.
Bon, vous voyez, il ne faut pas qu'on blague avec la sécurité présidentielle, ça, de grâce. Vous savez, le pape, c'est la personne qui a la meilleure sécurité armée de ce monde. Vous n'allez pas trouver une armée plus que celle qui entoure le pape. Si le pape doit venir au Togo, je vous assure que même la sécurité, une partie de la sécurité présidentielle sera déployée pour protéger le pape. Il ne faut pas que les gens pensent que là où il y a l'armée, Dieu s'éloigne. Non, pas du tout. Si le pape n'est pas protégé, mais les gens vont le tuer. Donc, c'est tout à fait normal que partout où le président ira, qu'il soit protégé parce qu'il a un statut karma différent. Ça sera un Uriel. Il prend sa moto, il prend sa voiture, il va tranquillement, il revient. Personne ne l'a vu.
Personne ne saura même.
Personne ne saura. Mais un chef de l'État, il ne faut pas prendre la
Merci. Je rappelle que des chefs d'État ont été victimes de meurtres. Le président Sadat d'Égypte, Anwar El Sadat, en 1981. Même en 1980, le président Ronald Reagan avait essuyé un coup de feu. George Kennedy, qui est mort en 1963. Même le pape Jean-Paul II. Quelqu'un a tiré sur lui. Dieu merci, il s'en est réchappé. Mais le débat reste ouvert. Nous, journalistes, n'avons fait que poser le sujet. Chacun y ira de son argumentaire. C'est fini pour aujourd'hui. Mais le Club de la Presse, nous nous retrouvons demain mardi à 11h, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille.